en plein carnaval d'Annecy et transformation de quelques 285 Annéciens et autres Français en masques vénitiens, voici pour nous ce matin le texte biblique de l'évangile de Matthieu que l'on appelle maladroitement la transfiguration de Jésus. Bien connu, ce texte se retrouve dans les trois premiers évangiles. Il a aussi une autre caractéristique, il est bien mystérieux. D'emblée, il ne nous met pas vraiment à l'aise, nous réformés. Je pense que vous l'avez tous senti à sa lecture, ce texte parle de vision. Et nous n'avons pas l'habitude de côtoyer ce mot. Et si même il nous arrive de l'entendre dans la bouche de quelqu'un, il nous fait souvent légèrement tressaillir. Je ne traduis pas ici une réaction généralisée, mais quand même, la tradition réformée ne fait pas bon ménage avec les visions et les signes venant de Dieu ou d'ailleurs. À l'heure où nos frères et sœurs catholiques fêtent les 150 ans des premières apparitions à Lourdes, il est bon, nous aussi, de pouvoir nous interroger sur ces questions. Alors voici quelques interprétations de ce texte de la part de nos savants exégètes, qui sont les spécialistes des Écritures. Ce texte serait une pré-résurrection de Jésus, une sorte de répétition générale. Essayons et voyons l'effet rendu, se dit Dieu. Vu la réaction des disciples, nous pouvons lui répondre « Bravo, c'est réussi ». D'autres y voient un assemblage savant d'éléments de l'Ancien Testament, mais oublient de nous expliquer le pourquoi de ce puzzle. D'autres encore imaginent que Jésus et ses trois compagnons fuient l'excitation de la fête des tabernacles célébrée à ce moment-là. Nous aurions un Jésus mystique qui échappe au monde. Les 6 jours du début de notre texte font allusion à la durée qui sépare le grand jour de l'expiation, le Yom Kippour, de la fête des tabernacles pour le peuple juif. Je rappelle que le tabernacle est le sanctuaire portatif que les Israélites ont emmené avec eux quand ils ont traversé le désert, et que ce tabernacle contient l'arche qui elle-même renferme les tables de la loi avec les 10 commandements. Revenons à notre texte. Quelle est ce matin notre interprétation? Qu'est-ce que ce texte a à nous dire? 3 personnes sont avec Jésus, Pierre, Jacques et Jean. Les 3 mêmes que l'on retrouvera à Gethsémané, au moment où Jésus sera crucifié. Ils seront là-bas autant déconcertés qu'ils le sont ici, devant la transformation de Jésus et l'apparition d'Élie et de Moïse. Pierre témoigne d'ailleurs dans ses propos de l'incompréhension générale. « Seigneur, c'est une bonne chose pour nous d'être ici. Si tu le veux, je vais faire 3 abris, une pour toi, un pour toi, un pour Moïse, un pour Élie. » En somme, Pierre dit à Jésus, « Tes amis arrivent, nous sommes là, ça tombe bien, on va t'aider à faire les lits. » Un peu plus loin, à l'écoute de la parole de Dieu pour son fils, les 3 compères s'écroulent face contre terre. Devant un signe de la gloire de Dieu, pas d'émerveillement, pas de louange, pas de reconnaissance, seulement de la crainte. Témoin de la gloire de Dieu, pas d'émerveillement, ni de louange, ni de reconnaissance, uniquement de la crainte. Cela ne vous rappelle rien? Nous qui ne croyons raisonnablement pas au miracle, avons-nous une fois dans notre vie contemplé de nos yeux la gloire de Dieu pour nous-mêmes ou pour les autres? L'avons-nous reconnue? Ou sommes-nous restés prostrés, sceptiques et suspicieux, face contre terre? La critique aisée de notre part, pour certains de nos frères et de nos sœurs, de voir des miracles partout et d'en attendre sans arrêt, se retourne ici contre nous. Et chez nous, où sont nos miracles? Quels sont les signes que Dieu me donne à voir? Suis-je capable de les confesser comme tels? Car si je crois que Dieu a parlé au prophète, qu'il a envoyé Jésus sur terre pour nous, que ce Jésus est ensuite mort et ressuscité pour moi, et si je crois que ce Dieu-là est toujours et encore vivant dans ma vie, comme il l'était dans les récits bibliques, alors je dois croire, sans équivoque, qu'aujourd'hui encore, Dieu me parle, Dieu me donne à voir et fait des miracles dans ma vie, comme il le fait dans la vie de bien d'autres. Ce que je dois aussi pouvoir reconnaître. Alors, dans cette vision de notre texte que nous prenons maintenant tous au sérieux, Jésus se transforme. Son visage brille comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Tous ces termes sont traditionnels dans la culture biblique et signifient que Dieu fait lui-même reposer sa gloire sur Jésus et atteste sa messianité, c'est-à-dire qu'il reconnaît en lui le Messie, celui qui vient sauver le monde. Puis deux autres personnages apparaissent, Moïse et Élie. Alors Élie, dans la tradition juive, est celui qui préparera la venue du Messie. Quant à Moïse, il est avant tout celui par qui la première alliance a été conclue, quand Dieu lui a donné les 10 commandements. Élie et Moïse parlent avec Jésus. Ils parlent du rétablissement de l'alliance, de cette deuxième alliance qui s'accomplira avec la mort et la résurrection de Jésus. Et la parole qui se fait entendre à travers le nuage, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est lui que j'ai choisi avec joie, écoutez-le. » Cette parole confirme cette nouvelle alliance de Dieu avec les hommes et les femmes par Jésus-Christ. En reprenant les mêmes mots qui avaient été dits lors du baptême de Jésus, Dieu dit qu'il ne s'agit plus maintenant seulement d'écouter Moïse, mais le Fils dans sa gloire de serviteur souffrant. Comme en témoigne cette scène, la gloire de Dieu et du Messie s'accomplit dans la douceur, vous l'avez compris, du silence, de la lumière, de la clarté, mais aussi dans la souffrance de l'incompréhension des disciples. Et quand à la fin de notre texte, Jésus leur explique que Élie est déjà venu et qu'il a souffert, il fait allusion à Jean-Baptiste et il parle aussi de sa propre souffrance à venir et ultime, celle de la croix. L'accueil de cette nouvelle alliance par les disciples reflète bien toute l'ambivalence de la croix, souffrance et paix. Et par là, tout l'enjeu de notre vie chrétienne, paix et souffrance. Souffre avec moi pour la bonne nouvelle, par la puissance de Dieu, dit Timothée dans la lettre que nous avons lue tout à l'heure. Ou encore le texte de Genèse, où Abraham est appelé par Dieu et a tout quitté. Ce texte qui illustre aussi la difficulté et les renoncements que nous devons faire pour suivre Dieu. Être chrétien n'est pas chose facile. Et même si nous ne sommes pas persécutés aujourd'hui pour notre foi et nos attitudes, nos paroles et nos engagements sont parfois source d'incompréhension, de conflits, de souffrances ou même de violences de la part des autres. Et c'est au sein de notre propre famille que cela est le plus difficile à vivre. Nous sommes du monde, bien sûr, et en même temps, nous sommes hors du monde. Nous partagerons ensemble une étude biblique à ce propos pendant la semaine thématique sur le thème « Sacrée laïcité ». Être ou ne pas être du monde. Nous vivons dans le monde, mais ce n'est pas sans risque. Ce n'est pas non plus sans une promesse qui nous est déjà offerte. Comme Abraham quitte le cœur gros, mais accompagné d'une formidable promesse, nous vivons parfois le cœur lourd, mais toujours allégé par une extraordinaire promesse. Ce texte, donc, bien loin d'un élan mystique situé au cœur de l'évangile de Matthieu, est un véritable condensé du salut de la vie chrétienne par la croix, souffrance et paix. Et en ce deuxième dimanche de carême qui nous approche de Pâques, souvenons-nous que cet événement est bien le commencement et le cœur de notre foi, et non Noël, comme parfois nous le pensons. Si Jésus n'était pas mort et ressuscité, le Nouveau Testament n'aurait jamais été écrit. Ce n'est qu'après sa résurrection que certains ont voulu transmettre toute l'histoire de cet homme, vecteur du pardon entre Dieu et les hommes. Et c'est alors que l'histoire de sa naissance a été rédigée, parce qu'il fallait bien un commencement à l'histoire. Et je dirais presque, si vous me permettez, et au risque d'aller un peu loin, que la naissance de Jésus, Noël, est anecdotique. Quand je pense à tout le soin que nous nous obligeons à faire à cette période, nous, Église, pour tenir bon face au Père Noël ambulant, et satisfaire l'exigence annuelle de rite de certains. Quand je pense aussi qu'au temps de nos chers réformateurs, Noël n'était pas fêté. Quand je pense encore que nos églises sœurs protestantes d'Annecy ne le fêtent pas non plus, ou presque, je m'interroge. Bref, vous l'avez compris, c'est Pâques qui doit nous faire vibrer et nous faire vivre. Et vous l'avez compris aussi, dans mes propos sur Noël, l'excès est au service de la pédagogie. Je termine maintenant sur une préoccupation générale de notre communauté, partagée en assemblée générale dimanche dernier, les jeunes. « Où sont vos jeunes ?» me demandait la semaine dernière une paroissienne lors d'une visite. Très bonne question. Une de vos remarques dimanche dernier était de souligner l'importance du témoignage. Et cette piste est sûrement à creuser. Nous sommes généralement trop frileux à dire ce qui nous anime et à le partager. Chacun, chacune a un parcours unique et intéressant sur sa rencontre avec Dieu. Nous devrions oser parler du sens de notre vie à la lumière de Dieu, de l'importance que pour nous a une vie d'Église. Et ce serait peut-être pertinent de vous inviter, à tour de rôle, à venir partager cela avec nos jeunes. Notre réticence est parfois de nous sentir décalés ou ringards, la peur de ne pas être pris au sérieux. Mais de toute façon, nous sommes décalés. Et c'est cela aussi qui fait notre force et notre richesse. Avoir une parole autre, voir la vie de façon différente, avoir un autre discours que celui de la compétition ou de la consommation. Tout cela interpelle les plus jeunes. Peut-être que le témoignage est une réelle piste pour donner du goût à la jeune génération. Pour conclure, ce texte de la Transfiguration nous ouvre trois pistes ce matin. La première, ne restons pas face contre terre devant un signe de Dieu. Sachons reconnaître sa présence dans nos vies et dans celles des autres au quotidien, et soyons-en reconnaissants. La seconde, toute l'histoire du salut est résumée ici en cheminant vers la nouvelle alliance par la croix, souffrance et paix. La dernière, Pâques est bien le commencement et le cœur de notre vie chrétienne. N'ayons pas de crainte à en témoigner simplement, et ainsi servir la mission.